France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis 2012, depuis l'élection de Donald Trump, donc depuis quelques mois, un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner et au sein de ce nouveau paysage politique, la rivalité entre la Chine et les États-Unis se joue sur le plan économique, commercial, stratégique et diplomatique. Lumière ce soir sur le rôle méconnu joué par les intellectuels au sein du Parti communiste chinois face à ces bouleversements contemporains. Quel rôle les intellectuels chinois jouent-ils dans la vision du monde portée par Pékin? Quel poids ces intellectuels organiques ont-ils sur les décisions, sur le parti et sur le pouvoir? Pour en discuter, une invitée ce soir, Chloé Froissart. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sinologue, vous êtes professeur des universités en sciences politiques et histoire contemporaine à l'INALCO, au département des études chinoises, et vous ferez bientôt paraître un ouvrage portant justement sur les intellectuels chinois.
Dans un monde de transformation et de turbulence, la Chine, grand pays responsable, a œuvré activement à promouvoir la réforme de la gouvernance mondiale et à approfondir la solidarité et la coopération du Sud global. Nous poursuivrons résolument la politique d'un pays, deux systèmes, pour maintenir la prospérité et la stabilité de long terme de Hong Kong et de Macao. Les Chinois des deux rives du détroit de Taïwan sont une même famille. Personne ne saurait couper les liens de sang qui nous unissent.
La voix de Xi Jinping, c'était en décembre dernier. Commençons justement par le président chinois, Chloé Froissart. Sur quoi fonde-t-il sa pensée, sa vision stratégique pour la Chine? Quelle est, j'allais dire, l'origine intellectuelle de sa vision du monde?
Sa vision du monde, c'est avant tout une vision de long terme de la place de la Chine, de la trajectoire de la Chine et de sa place dans le monde. Plusieurs documents officiels qui ont été publiés, notamment celui sur la résolution sur l'histoire en 2021, qui est la troisième résolution sur l'histoire que le parti a publiée sur sa propre histoire. Et l'idée de cette résolution, c'est de replacer la place, la trajectoire historique du Parti communiste, de lui donner sens et de faire apparaître le Parti communiste aujourd'hui comme le produit à la fois de l'époque maoïste, de l'époque où la Chine s'est levée et donc elle a pris en quelque sorte sa revanche vis-à-vis de l'Occident, des puissances occidentales qui l'avaient soumise depuis la fin du XIXe siècle, depuis les guerres de l'opium, de la période de Deng où la Chine s'est enrichie, et finalement cette période Xi Jinping, c'est celle où la Chine peut enfin réaliser son rêve de puissance et de prospérité qui est celui de tous les gouvernants depuis la fin du XIXe siècle, que montrant Xi Jinping comme l'homme providentiel à même de mener à bien cette mission.
Mais alors justement, pour bâtir cette pensée, est-ce que des intellectuels entourent le président chinois? Est-ce que des intellectuels contribuent à écrire auprès de lui la doctrine et sa pensée?
Alors,
est-ce qu'on a même moyen de le savoir, j'allais dire?
Il y a toujours eu, si vous voulez, un lien un peu consubstantiel entre les intellectuels et le pouvoir en Chine. D'une part parce que le pouvoir a besoin des intellectuels, de leurs idées, pour alimenter l'idée des réformes. Et Xi Jinping met l'accent sur le fait que la Chine est toujours dans un processus de réforme. Et d'ailleurs, par exemple, les intellectuels ont été complètement décimés pendant l'époque maoïste. La première chose qu'a fait Deng Xiaoping quand il est revenu au pouvoir, c'était de les réhabiliter. Donc ils sont intimement liés à cette idée de la réforme, et eux-mêmes, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux se considèrent comme des conseillers du prince et souhaitent pouvoir orienter ces réformes, avoir un rôle dans l'avenir de la Chine, l'avenir politique de la Chine. Donc ce lien consubstantiel, il s'est fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant longtemps aussi une possibilité pour les intellectuels de différents bords, et y compris d'intellectuels relativement critique, d'influencer le pouvoir. La grande différence aujourd'hui en Chine, c'est que les choses se sont beaucoup rétrécies et que il y a toujours ces rapports importants entre le monde académique et le monde politique, même si on ne peut pas évidemment mesurer de manière extrêmement précise l'influence des intellectuels, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a des référents qui circulent, des référents politiques qui circulent, qui sont parfois repris par le pouvoir de la du monde académique, qui peuvent par exemple les instituer comme des référents politiques, des concepts directeurs, et qui ensuite forment un cadre dans lequel s'exerce le travail des universitaires qui vont contribuer à donner un contenu à ces référents politiques.
Est-ce que ces intellectuels organiques, on va les appeler ainsi, Chloé Froissart, s'expriment publiquement ? Est-ce qu'il est possible pour vous, j'allais dire pour vous, pour moi, mais sans doute plus pour vous, d'accéder à leurs pensées, de les lire, de les comprendre ? Est-ce qu'on sait par exemple ce que certains de ces intellectuels ont pensé du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ?
Alors, je pense que là, c'est un peu tôt. D'une part parce que tout le monde est sous dans un état de sidération par rapport à ce qui s'est passé, et puis il faut savoir de quoi on parle quand on parle des intellectuels. Je viens de vous dire il y a différents courants intellectuels. En tout cas, il y en a beaucoup moins sous Xi Jinping. Il y en avait beaucoup avant. Avant Xi Jinping, depuis les années 90, il y avait trois courants principaux, les libéraux, hein, qui se divisaient eux-mêmes entre libéraux politiques. En fait, les courants intellectuels se structuraient, c'est très important de le rappeler, par rapport au modèle occidental, hein, et notamment de la démocratie libérale. Et donc, on avait les libéraux qui, eux, pensaient que les problèmes face auxquels était confrontée la Chine étaient dus au fait que la Chine n'avait pas suffisamment réformer son système politique et devait s'acheminer progressivement vers un système démocratique, des libéraux économiques qui pensaient que les problèmes liés à la Chine, c'est qu'ils n'avaient pas mis en place une véritable économie de marché complètement libre. Il y avait également la nouvelle gauche qui voyez les difficultés auxquelles la Chine était confrontée, notamment l'accroissement des inégalités, justement à cette réintroduction de l'économie de marché, et voulait revenir à une forme de socialisme, reprendre les bonnes pratiques de l'époque maoïste. Il y avait des néo-conservateurs qui, tout en visant un avenir démocratique pour la Chine, disaient qu'il fallait passer par une dictature éclairée. Et quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de fermer hermétiquement la Chine et en particulier les universités à l'influence occidentale. Il y a eu un document extrêmement important qui s'appelle document numéro 9, qui a été publié, fuité plus exactement en 2013, qui vise à éradiquer un certain nombre de concepts qui étaient considérés comme des concepts extrêmement dangereux, venant justement du libéralisme occidental. Comme
c'est le fameux document 9.
Oui, c'est ça. Constitutionnalisme, société civile, valeurs universelles, journalisme à l'occidental, c'est-à-dire d'investigation, etc. Ou encore, qui bannit également le nihilisme historique, c'est-à-dire toute version de l'histoire qui ne serait pas conforme à celle du parti. Et donc, s'en est suivi par ailleurs une reprise en main extrêmement importante des universités, à la fois avec une pénétration du parti bien plus avant, dans un contrôle du parti bien plus important dans le travail des chercheurs et des enseignants, la surveillance, qu'elle soit numérique ou humaine. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont recrutés pour dénoncer les professeurs qui partagent des opinions personnelles ou qui s'éloignent de la ligne du parti. Et puis voilà, et avec ça, toute une volonté de promouvoir la pensée Xi Jinping et appeler également les chercheurs à donner un contenu à cette pensée Xi Jinping. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais d'une manière générale, si vous voulez, tous les intellectuels libéraux ont été éradiqués. Soit ils ont quitté la Chine, soit ils sont en prison, soit ils se cachent. Les intellectuels de la nouvelle gauche ont très peu sont restés sur leur position. Il y a une grande figure qui s'appelle Wang Kruei, mais qui est la plupart du temps aux États-Unis, qui reste à peu près sur ses positions. Sinon, une autre figure comme Cui Zhiyuan, qui était par ailleurs le conseiller de Bo Xilai à Chongqing au début de l'ère Xi Jinping, il est devenu étatiste, c'est-à-dire il
sert désormais les intérêts les intérêts de l'État, etc.
Aujourd'hui, on a deux types d'intellectuels, ceux, les idéologues qui fournissent un contenu à la pensée Xi Jinping et ce que voudrait voir le pouvoir, en tout cas, deux types d'intellectuels, les idéologues et les experts. Bon, ce qui ne veut pas dire que la Chine ne pense plus, mais c'est ça que le pouvoir voudrait faire advenir dans les universités.
On va revenir sur cette distinction. Je voudrais d'abord vous faire entendre la voix d'un sinologue, il s'appelle David Onba. Il était l'invité de Soft Power sur France Culture, c'était en 2023.
Presque tous les gens que je traduis sont les profs, sont les universitaires, qui sont des pros, ils ont déjà publié dans leur domaine spécifique, ils sont reconnus et respectés pour cela, ils en profitent, comme vous l'avez dit, pour monter cet autre profil qui est public, où ils parlent, en fait ils parlent aux autres intellectuels. Parce que si on se fie à ce qu'on lit dans le New York Times, tout est déjà décidé en Chine. Mais en fait, ils sont pas tout d'accord sur plein de choses fondamentales. Il y a plein d'intellectuels chinois qui sont toujours pro-américains, par exemple, même si Xi Jinping ne l'est pas. Et donc, en dedans de la société chinoise, c'est pas du tout unifié. C'est une société pluraliste, ce qui ne plaît pas du tout à Xi Jinping ou au parti.
Est-ce que vous êtes d'accord, Chloé Froissart, avec ce que dit ici David Onby? Il y a une forme de pluralisme et de diversité dans, justement, l'étendue des intellectuels chinois contemporains.
Alors, pluralisme et diversité, c'est pas
la même chose, justement. Mais
c'est pas équivalent. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec David Onby.
Lui, il parle de pluralisme, mais vous avez décrit la diversité. C'est pour ça que vous avez le distinguo.
Sous Xi Jinping, le pluralisme limité qui existait, encore sous l'époque Rouen a disparu. C'est ce que je viens de vous décrire à l'instant, en retraçant brièvement cette
Absolument.
Histoire. Bon, et David Onby parle d'intellectuel public. Aujourd'hui, je suis désolée, mais il n'y a plus d'intellectuel public au sens d'intellectuel critique qui s'exprimerait, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. L'espace public a été drastiquement contracté, que ce soit par la reprise en main d'Internet aujourd'hui, des réseaux sociaux, des médias sous Xi Jinping, et je veux dire, il n'y a plus les débats qu'il y avait autrefois. Moi, je me rappelle le début des années 2010 dans les universités, juste avant que je prenne mon poste à l'université de Tsinghua, où j'ai dirigé un centre de recherche en sciences sociales, on parlait de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Hein, c'était ça qui structurait les débats. Aujourd'hui, c'est plus possible. Xi Jinping s'assure que plus aucun manuel étranger ou œuvre étrangère soit prise comme matériau d'enseignement ou en Chine. Ce qui ne veut pas dire que les chercheurs chinois ne s'y réfèrent pas, évidemment. Mais si vous voulez, dans l'espace public, ils ne peuvent plus s'exprimer comme tel. Il n'y a plus de débat public, c'est ça que j'appelle la disparition du pluralisme. Et même le fait de faire référence à des faits, par exemple là récemment, il y a des économistes qui ont remis en cause le fait que la Chine avait un taux de croissance de 5% et qui juste dans un groupe de discussion privée sur WeChat, sur un réseau social chinois, eh bien leur compte est censuré, eux-mêmes ont des problèmes, sont sanctionnés, etc. Non, on ne peut pas dire qu'il y ait un débat public aujourd'hui en Chine. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui se disent dans le domaine privé, et qu'il n'y ait pas d'autres... Il y a des parades, il y a des espaces quand même où une certaine pensée plus formatée peut s'exprimer.
Alors justement, c'était ma question suivante. Dans quel cadre cette pensée formatée s'exprime-t-elle? On a bien compris que c'était un cadre privé, mais où est-ce que cela se déplie? C'est dans les arènes du parti? C'est dans d'autres cercles? Racontez-nous.
Alors, il y a différentes choses là encore, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle des intellectuels, si vous voulez, la génération des universitaires, la génération précédente des universitaires, celle qui vient de partir à la retraite, beaucoup d'entre eux restent foncièrement des intellectuels, parce que c'est leur ADN, parce que... certains continuent à s'exprimer, à écrire. Par exemple, je pense à un sociologue très connu qui s'appelle Sun Liping, qui a pu pousser des coups de gueule, j'allais dire, mais régulièrement Par exemple, lorsque la politique de zéro Covid a été levée par Xi Jinping, il a publié un texte en disant « mais qu'est-ce qui se passe avec nos experts ?» C'est-à-dire comment ça se fait que les experts relaient tout d'un coup la parole du pouvoir en disant « mais finalement le Covid, c'est une petite grippe, qui ne porte pas à conséquence, donc on lève toutes les barrières alors qu'il y a eu un confinement extrêmement long et beaucoup plus drastique qu'ailleurs en Chine. » Ou c'est quelqu'un qui va encore parler des travailleurs migrants, des laissés pour compte du régime qui n'ont pas, dont les droits ne sont pas protégés. Y a encore des gens des chercheurs qui tentent de réfléchir sur l'histoire de manière indépendante du pouvoir.
Et comment se fait-il, je vous coupe, pardonnez-moi, mais comment se fait-il que certains le peuvent et d'autres non, les sociologues?
Parce qu'ils sont à l'extérieur du système. Ceux qui sont dans le système, les directives, par exemple, bon. Après, ça dépend de discipline, mais pour l'histoire, par exemple, qui est vraiment la discipline idéologique par excellence, parce que c'est un des piliers extrêmement importants de la légitimité du parti, qui a une mission historique, eux doivent rester dans le cadre, par exemple, de ce qui a été dit dans la résolution sur l'histoire que je mentionnais au début de l'émission. Et par exemple aujourd'hui écrire de manière indépendante sur la révolution culturelle, sur la grande famille, etc., ce n'est plus possible, alors qu'il y a eu des formes des écritures des chercheurs y compris à l'intérieur des plus grands centres de recherche comme l'Académie des sciences sociales de Chine dans les années 90-2000 qui avaient pour ambition d'écrire une histoire non officielle de la révolution culturelle de l'époque maoïste. Aujourd'hui, c'est tout simplement plus possible. Et alors, après, il y a quand même de la recherche qui se fait et tout dépend de qui on parle. Il y a des chercheurs qui ont été formés à l'étranger et qui, eux, peuvent, ont un bagage important et qui continue à écrire dans des revues classées à l'international. Mmh. Et eux, si vous voulez, ils font de la recherche internationale, à un niveau international, etc. Mais on peut pas dire que ce soit des intellectuels publics.
Vous avez parlé un peu plus tôt, Chloé Froissart, de l'influence du parti sur les universités. Comment cette influence-ci s'incarne-t-elle? Est-ce que c'est dans les choix peut-être des objets de recherche? Est-ce que c'est une influence toute idéologique? Comment se manifeste cette incarnation?
C'est pas une influence, c'est un contrôle. C'est un contrôle extrêmement important, comme je viens de le mentionner, avec la surveillance numérique, avec la surveillance humaine, le contrôle du parti, des instituts de la pensée Xi Jinping qui ont été créés un peu partout, avec des séances où les universitaires doivent apprendre la pensée Xi Jinping. Après, tout dépend des départements. Il y a des départements, par exemple comme le département d'études marxistes, dont c'est la mission d'alimenter l'idéologie du pouvoir. Mais il y a d'autres départements, comme, les sociologues. Alors, il y a eu plein de sujets qui ont disparu, qui ne peuvent plus être véritablement
étudiés,
comme par exemple les protestations, les questions de travail sont devenues des questions sensibles, les questions de religion sont devenues des questions extrêmement sensibles. Ils se replient sur des questions beaucoup moins sensibles, comme celle sociologie de la famille ou des choses comme ça. Donc il y a moins de possibilités de choix de sujets, et les sujets doivent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si vous rentrez, et c'est aujourd'hui un des prérequis pour les universitaires, qui est lié aussi à un néo-management de la recherche qu'on connaît également chez nous, c'est-à-dire il faut décrocher des appels à projets. Et dans les appels à projets qui sont financés par l'État, par le département de la propagande plus précisément, la plupart d'entre eux, c'est donner un contenu à la pensée Xi Jinping ou des sujets prioritaires pour la puissance chinoise. Et aujourd'hui, il y a des sujets qui sont devenus extrêmement techniques et qui font partie des sujets encouragés, comme l'IA, comme la transition écologique, comme tout ça. Là, vous pouvez, si vous travaillez là-dessus, vous pouvez faire carrière, si vous voulez.
L'analyse de Jean-Louis Roca, il est professeur à Sciences Po, chercheur aux séries. Je le recevais dans les matins du samedi en 2023.
Il y a des gens qui continuent à réfléchir, à critiquer. Alors évidemment, ils font attention, etc., etc. Et le fait d'être membre ou pas membre du parti n'est pas quelque chose qui est fondamental. Il y a plusieurs grandes figures intellectuelles critiques qui sont membres du parti, mais qui en même temps sont assez critiques du parti. On a quand même cette marge de manœuvre, encore une fois, pour une raison bien pragmatique, c'est-à-dire il y a quand même l'idée qu'on ne peut pas retourner à l'époque de Mao, où il y a une normalisation totale de la pensée, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde complexe. En Chine, il y a des problèmes sociaux qu'il faut résoudre. On est des technocrates aussi, on est des gens qui avons des choses à faire, des intérêts à préserver, des politiques à mener. Et donc, il y a tout un aspect technique et de réflexion sur la situation chinoise qui ne peut être prise en charge que par, justement, ces intellectuels qui ne sont pas des idéologues.
Je reviens, Chloé Froissart, sur la distinction que vous avez faite au début de cet entretien entre les intellectuels et les experts. Est-ce que, au fond, le pouvoir chinois considère très souvent les intellectuels même comme des experts, c'est-à-dire avec une vision très utilitariste du travail de recherche, il faut que ça serve concrètement à quelque chose de pensé.
Alors, les experts sont dans une certaine mesure des intellectuels, mais... Je vous parlais d'un certain type d'intellectuel critique, c'était ça ma distinction, et je pense pas qu'aujourd'hui on puisse vraiment critiquer la dictature du parti ouvertement. En Chine, même si bien sûr beaucoup de collègues le font en aparté dans un contexte privé. Si vous voulez, aussi des espaces différents au sein de la Chine. Il y a par exemple des écoles d'été, certaines d'entre elles, qui sont adressées à des étrangers. Il y a certains enseignants qui peuvent être tout à fait critiques sur, par exemple, l'évolution des médias en Chine et parler, etc. D'autres font beaucoup plus attention. Ça dépend de chacun, mais en tout cas, ou alors il y a, par exemple, un peu plus d'espace de pensée critique dans encore les rares campus chinois et étrangers, si vous voulez. Par exemple, il y a encore comme Duke Kunshan, par exemple, ça fait partie de ces campus sino-américains où la parole est un petit peu plus libre, si vous voulez. Mais l'idée, en effet, aujourd'hui, c'est que les chercheurs deviennent de plus en plus des experts sur des questions techniques visant à résoudre des problèmes.
C'est-à-dire des sujets de politique publique très concrets ?
Des sujets de politique publique très concrets, exactement. Alors ça, il y a toujours eu cette tradition en Chine, mais là, c'est vraiment ce qui est encouragé par le pouvoir. Et à travers, y compris, comme je vous disais, ces appels à projets, ce système d'appels à projets. Et l'idée, c'est de aussi pour beaucoup de ces intellectuels qui sont dits solutionnistes, c'est de trouver des solutions aux problèmes auxquels fait face la Chine et parfois aussi le reste du monde, avec cette idée que pour certains d'entre eux, c'est pas encore le cas pour tous, qu'il y a peut-être une solution chinoise qui pourrait être exportée, qui pourrait voilà.
En quelques mots, Chloé Froissart, est-ce que les intellectuels chinois sont nombreux à avoir émigré, à être partis de Chine simplement pour pouvoir travailler ailleurs et travailler mieux ?
Alors les libéraux, oui, ça c'est sûr. Les grandes figures libérales de l'époque précédente, je pense par exemple à un Qinghui qui était un libéral social-démocrate qui a beaucoup travaillé sur les paysans, sur les migrants, qui a largement critiqué un système très discriminant en Chine qui s'appelle le système de Hukou, qui a montré comment est-ce que la globalisation, la Chine profitait de la globalisation pour faire en quelque sorte, remettre en cause les droits sociaux dans les démocraties, etc. Enfin bon, lui, c'était un grand professeur qui était à Tsinghua. Il est récemment aussi retraité. Il est parti là. Il est au Japon actuellement, comme beaucoup d'autres. Il y a un autre grand historien de Fudan sur le parti qui a pas nécessairement et sur les relations Chine-Russie qui a pas nécessairement la même voix que celle du parti. Il est également au Japon. Beaucoup sont réfugiés au Japon. D'autres, par exemple, je pense à un autre historien qui a travaillé sur la révolution culturelle, comme Xu Youyu. Il est aux États-Unis. Beaucoup sont partis.
Merci beaucoup, Chloé Froissart. Je rappelle que vous êtes sinologue et professeur des universités en sciences politiques et en histoire contemporaine à l'INALCO. Et vous préparez une sortie prochaine, un ouvrage sur la place, justement, des intellectuels chinois. Merci d'être venu à Question du Soir.
Merci à vous.